Mondial Sport, Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour un nouveau week-end en votre compagnie dans Mondial Sport sur RFI. Tous les exploits aux quatre coins du globe. Le ring et la cage au sommaire. MMA et boxe anglaise. Le passage de l'un à l'autre est difficile pour Francis Ngannou. La vedette camerounaise des arts martiaux mixtes s'accroche à un rêve, briller en boxe anglaise. Francis Ngannou, malheureusement envoyé au tapis par Anthony Joshua la nuit dernière. Réveil difficile pour ses fans. Un autre natif du Cameroun, autre star du MMA, Cédric Doumbé, l'homme qui faisait se lever Kylian Mbappé il y a peu, a lui aussi connu une drôle de désillusion cette semaine dans l'octogone à l'occasion d'un combat événement en France. Émission coup de poing, donc, mais pas que, ce samedi ou quand la radio devient un sport de combat.
Francis Ngannou versus Anthony Joshua, two behemoths colliding in the city of Riyadh. No! Oh, AJ touched him and went down!
Shot six, straight right hand
seven
down the pipe eight, of Ngannou. He's hurt.
What a stunner!
Why that right hand?
He's oh, in there coming down. And Ngannou walks right into it, and you can't do that against Anthony Joshua.
He's hurt, badly hurt.
He's up. He has the look of defeat on his face, a bewildered look. Let's see if Anthony Joshua can dispose of the MMA champion. It is lights out.
Wow.
Anthony Joshua.
Incredible. What a shot.
And Ngannou's out cold, ladies and gentlemen. He's not even moving.
The fighting pride of Watford, London, England, former two-time world champion, AJ Anthony Joshua.
He's very strong. I think he should continue in boxing.
I do not stop. I was just on my way climbing up once get stopped by AJ. Congratulations, by the way. That was a clean one. Thank you. I appreciate that. Thank you very much.
Voilà, le bel esprit. Il ne faut pas que Ngannou arrête la boxe. Il est beau gagnant, Anthony Joshua. Je n'arrête pas la boxe. Confirme, voilà, Francis Ngannou, même si AJ, c'est comme ça qu'il l'appelle, Anthony Joshua, m'en a mis une belle pour un KO dès la deuxième reprise. Les réactions des acteurs de ce combat-événement qui s'est tenu en Arabie Saoudite hier, le deuxième combat de boxe professionnel pour la star du MMA, le Camerounais Francis Ngannou. Autant le Predator, comme on le surnomme, avait fait mieux que résister à Tyson Fury pour sa première en noblard, autant il n'a pas fait illusion face à une autre vedette des rings. Ce vendredi, Anthony Joshua a envoyé Ngannou au tapis pour un succès autoritaire et expéditif. Bonjour Xavier Foupa-Pocam.
Bonjour Hugo.
C'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille pour cette première dans Mondial Sport. Et je vous ai appelé par votre nom, on va dire, officiel, celui de l'état civil. Mais on vous connaît peut-être dans les milieux autorisés sous le nom de Professeur X.
Oui,
vous n'êtes pas un personnage des X-Men. Désolé pour les fans de comics ou de films de super-héros.
Alors, peut-être un peu, hein, parce qu'effectivement, je suis le Professeur X et c'est l'heure de la punition. Ma devise pour le coup. Alors, Professeur X, c'est un surnom qui m'avait été donné par mon entraîneur, Cyril Diabaté, que je salue d'ailleurs, puisque lui et mes coéquipiers de la Snake Team considéraient que beaucoup de mes adversaires avaient un petit peu perdu le combat psychologique, en tout cas d'avance, avant d'entrer dans la cage ou dans le ring. Et donc,
Vous entriez, vous, dans leur tête, c'est ça?
C'est ça.
Avant le combat.
En fait, ils considéraient que j'avais des pouvoirs psychologiques. Et donc, voilà, ils m'ont appelé comme ça, Professeur X, comme le professeur Charles Xavier, de mon prénom.
Bon, vous êtes un gabarit impressionnant et je pense que vous aviez aussi quelques pouvoirs en termes de biscotto, ancien combattant de MMA, on l'aura compris. Je dirais même pionniers du MMA en France. Vous avez défriché cette discipline lorsque vous n'aviez pas vraiment le droit de la pratiquer, en tout cas dans l'Hexagone, donc la période avant 2020. Aujourd'hui, vous êtes consultant pour différents médias. Et quand on parle de Ngannou, c'est quoi ? C'est Francis pour vous ?
C'est un pote, un petit protégé même. Alors, c'est pas un pote en tant que tel. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises, effectivement, en tant qu'athlète. On a même combattu sur les mêmes événements. Je pense notamment au 100% Fight à l'époque, qui sont des événements par lesquels il a fait ses débuts en France. Donc oui, on se connaît, on s'est croisés à plusieurs reprises, même sur les plateaux aussi, d'autres chaînes. Donc oui, on s'est côtoyés. Et en plus, on est tous les deux originaires du Cameroun.
Vous êtes né à Paris, lui au Cameroun, mais effectivement, vos parents sont camerounais. Et le Cameroun, les relations entre le Cameroun et la France sont assez présentes dans l'actualité du MMA. Et on s'en réjouit évidemment, d'autant plus qu'on est sur RFI. Nous ne parlerons pas uniquement de Francis Ngannou aujourd'hui. Avec vous, et c'est bien normal, nous évoquerons l'actualité strictement MMA. Et on en a parlé, elle est riche ces jours-ci en France, mais pas que. Le grand combat de jeudi dernier à Paris, la défaite polémique de Cédric Doumbé, le trash talker à cause d'une écharpe dans le pied. C'est très sérieux, ça paraît drôle comme ça, mais c'est très sérieux.
Même lui, il n'est pas spécialement fier.
En tout cas, pour la légende du MMA en France, voilà, faudra bien la marquer, cette phrase bien encadrée. Et cette nuit, c'est une nouvelle figure de proue. On l'a entendu il y a quelques instants sur RFI, des arts martiaux mixtes qui va créer l'événement Benoît Saint-Denis, opposé aux USA, l'américain Dustin Poirier.
C'est, je pense, mon style qui est spectaculaire et efficace. Un style complet et très agressif. Voilà, un style où l'objectif c'est clairement d'aller chercher le finish et pas d'aller à la décision.
Vous avez su séduire le public aussi par votre personnalité.
Moi, je pense que c'est un mix des deux, surtout c'est la combinaison de résultats satisfaisants avec des combats enjoués et combinés à l'explosion du MMA à l'international et en France. Et le fait de rester fidèle à mon personnage et à moi-même qui font qu'aujourd'hui il y a une accroche qui est incroyable avec le public, il y a une certaine communion avec le public français. Ouais.
Mondial Sport sur RFI.
Hugo Moissonnier. Mais d'abord, dans cette émission qui a du punch, on va débuter par l'actualité la plus brûlante, la boxe pratiquée par une vedette des arts martiaux mixtes. La défaite spectaculaire de Francis Ngannou hier contre Anthony Joshua. Vrai boxeur, vrai poids lourd, vrai vedette, 3 ceintures de champion du monde et une médaille d'or olympique, entre autres, excusez du peu. Et pour parler du combat de Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite, Riyad Mehri, boxeur belge, qui a brillé en France il y a peu en battant Tony Yoka. Bonjour Riyad Mehri.
Bonjour, bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous, de prendre quelques minutes. Eh bien, pour revenir sur cet événement, hier, Anthony Joshua était le modèle de Tony Yoka, il y a peu, champion olympique devenu champion du monde des poids lourds. Mais vous êtes bien placé pour savoir qu'Anthony Joshua, c'est autre chose que Tony Yoka. Et la marche était trop haute pour Francis Ngannou, c'est ce que vous avez constaté hier ?
Là, on est en face d'Anthony Joshua. Anthony Joshua, c'est un véritable boxeur. Fury, c'était également un véritable boxeur, mais je pense qu'il a un peu laissé, il a un peu sous-estimé Ngannou lors de son premier affrontement. Et Joshua était déterminé. Ce que je disais, Joshua n'a pas combattu pour combattre Ngannou. Il a voulu se battre pour prouver qu'il était plus fort que Fury. On l'a bien vu directement après sa victoire. Son regard était posé vers Fury, quoi.
Xavier ?
Oui, salut Xavier, à l'appareil. Ouais, effectivement, c'est ça. Hein. D'ailleurs, moi, la première personne à laquelle j'ai pensé, en fait, lorsque j'ai vu Francis tomber, c'est Tyson Fury qui était assis et qui a donc regardé finalement Anthony Joshua.
Oui, qui était aux premières loges. Oui.
Défaire assez rapidement celui qui avait donné tant de mal quelques mois précédents. Ouais.
Oui, parce que Riyad Mehri, on reprécise, Tyson Fury, premier adversaire en boxe professionnelle pour Francis Ngannou, qui va au tapis mais qui gagne par décision partagée et controversée des juges il y a quelques semaines. Hier, ça n'a pas fait un pli, donc pour Ngannou, envoyé rapidement au tapis par Anthony Joshua. Pour vous, c'était juste une différence, on va dire, d'approche. Joshua, il a pris ce combat plus au sérieux, parce qu'il a aussi peut-être une carrière un peu à reprendre en main. Ses ceintures, elles datent, il n'en a plus aujourd'hui. Et puis justement, il y a peut-être Fury ou Usyk qui vont s'affronter plus tard à aller chercher dans un avenir proche.
Voilà, mais je pense que Joshua, il nous a remontré son vrai visage, en fait. Ça nous manquait un peu. On avait vu Joshua un peu défaillant depuis ces deux défaites consécutives contre Usyk. Et le fait de revenir comme ça contre un Ngannou et le prouver en deux rounds comme ça, il nous a régalé en fait. Il nous a remontré le Anthony Joshua du début, quoi.
Xavier Foupapocam, faut qu'on parle de Ngannou aussi évidemment, oui. Parce que on a envie de féliciter Anthony Joshua, mais
bien sûr.
La question un petit peu, pas dire que c'est l'éléphant dans la pièce, mais est-ce que Francis Ngannou, autant on était enthousiaste de le voir s'essayer à la boxe après Fury et on avait plein d'espoir, autant là on a eu l'impression que ben voilà, c'est pas le même métier, c'est pas le même sport.
C'est surtout qu'après l'émotion, en fait, ça a ramené un peu tout le monde à la réalité. C'est qu'on ne rattrape pas l'expérience et les qualités d'un grand champion de boxe anglaise et un spécialiste de la boxe anglaise en aussi peu de temps, malgré tout le talent qu'on a dans un autre sport. C'est ça, en fait. Tout le monde s'est laissé prendre dans l'émotion. Et effectivement, Francis, c'est une vraie personnalité, il a un vrai parcours et il a un vrai talent. Mais il faut se souvenir qu'en face, il avait un très grand champion qui avait beaucoup d'expérience. Voilà. Et du coup, ça a ramené un peu tout le monde à la réalité.
Oui, on peut rappeler, alors ce serait trop long de rappeler le parcours de Francis Ngannou, ça prendrait deux ou trois émissions.
C'est
tellement
sûr.
Il y a eu des épreuves, des rebondissements et ça pourrait être un film d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il voulait la boxe avant de faire du MMA, c'est quelqu'un qui a surmonté beaucoup de difficultés. Néanmoins, Riyad Mehri, vous qui êtes boxeur professionnel, est-ce que vous voyez en lui tout simplement un boxeur professionnel, lui qui a fait sa légende, écrit sa légende dans le MMA? C'est pas exactement la même chose.
Francis Ngannou, je le vois comme un athlète. Voilà. Après, comme le fait de devenir un boxeur pure souche en anglaise, je pense qu'il est il est trop vieux pour rattraper le retard qu'il a pris. Mais par contre, si on le met dans une cage où il a le droit de faire ce qu'il veut, alors il n'y a pas de souci. En pure boxe anglaise, je pense que ça va être un peu tard pour lui.
En plus, je suis d'accord avec toi. 37 ans, hein, Xavier Foupapocam.
Oui, en plus, je suis d'accord avec toi, Riyad, pour compléter ce que tu dis. En fait, il faut bien que les gens prennent en compte le fait que ce sont deux sports de combat, deux arts martiaux, mais deux sports complètement différents, des enjeux différents, des postures différentes, des méthodes différentes, ne serait-ce que des coups et des règles différentes, une approche différente qui fait que c'est compliqué de passer de l'un à l'autre régulièrement. Et surtout, c'est compliqué de faire à la fois partie de la crème de la crème de l'un et de la crème de la crème de l'autre.
Concrètement, quelle différence vous saute le plus aux yeux? C'est-à-dire quelle qualité va avoir un boxeur, notamment un poids lourd, que n'aura pas quelqu'un plus spécialisé dans le MMA?
Par exemple, en termes de philosophie, en MMA, lorsque j'emmène un adversaire au sol, que je l'ai projeté ou que je l'ai sonné, mon but à moi, c'est de le poursuivre pour le finaliser. En boxe anglaise, si je te mets au tapis, au contraire, je vais m'écarter pour ou te laisser le temps de récupérer et revenir, ou alors tout simplement qu'on te déclare KO. Rien que ça, déjà, ça fait une grande différence. On est d'accord, Riyad, c'est pas du tout la même approche. Ouais, quand j'envoie un mec au tapis, il est par terre, j'attends en fait qu'il soit déclaré KO ou alors qu'il se relève.
Riyad Mehri.
Et moi, je dirais même les automatismes, c'est totalement différent. Les automatismes au niveau de la boxe anglaise et au niveau du MMA, c'est pas les mêmes. Il faut des années de pratique pour pouvoir développer ça.
Ouais, complètement. La posture, les techniques qui sont utilisées.
Même si le MMA utilise tous les sports de combat, eux, ils ont des automatismes de blocage avec les pieds, des protections de ramener de sol. Donc, c'est des automatismes totalement différents, quoi.
Une façon de se déplacer, de gérer la distance, d'appréhender aussi les coups.
Ça va être compliqué, quoi.
Mais si exactement. On en revient à une question compliqué. Finalement plus simple, Riyad Mehri, vous avez affronté Tony Yoka, et souvent, les questions autour de Tony Yoka, c'est est-ce qu'on n'a pas mis, on va dire, la charrue médiatique avant les bœufs sportifs, si je puis dire. Là, on a l'impression que l'entrée de Ngannou avec ses combats surmédiatisés dans la boxe anglaise, il y a aussi un aspect business médiatique. Bon, je pense que personne ne le niera. Est-ce que vous, qui êtes un boxeur, on va dire, voilà, vous êtes allé chercher avec vos poings, littéralement, votre carrière. Est-ce que vous voyez ça comment? C'est un bon coup de projecteur, une rencontre entre une discipline traditionnelle et quelque chose de plus nouveau, et ça profite aux deux? Ou alors vous vous dites, non, il faut que chacun reste dans son rôle.
Avec tout le respect que j'ai pour Francis Ngannou, j'adore son histoire, j'adore son parcours. Mais il faut rester, chacun doit savoir que c'est à sa place. Et je suis sûr qu'il y a des boxeurs, il y a des boxeurs du MMA qui sont super bons en anglaise et qui préfèrent quelque chose. Mais il ne faut pas commencer à tout mélanger, quoi. Chacun à leur place. Ouais.
Oui, non, finissez votre phrase, excusez-moi. Excusez-moi.
Ouais, je crois que chacun doit rester dans sa discipline. Et quelquefois, ça fait du bien d'avoir ce genre d'événement parce que ça porte de la lumière dans les deux disciplines, quoi. Et ça met de l'engouement. Et surtout pour la boxe anglaise, on a besoin de ça aussi, d'être mis en lumière, quoi.
Je ne suis pas très étonné par le franc-parler de Riyad Mehri. On l'avait remarqué la dernière fois à Paris. On va parler un peu de vous avant de vous libérer, de vous laisser vous entraîner tranquillement parce que bah, votre carrière, elle continue. Prochain combat aux États-Unis en avril contre Jared Anderson, un grand espoir des poids lourds. Poids lourds, défi de poids, dans tous les sens du terme, puisque vous êtes un peu dans un changement de catégorie quelque part dans votre carrière. Vous qui étiez plutôt un poids léger, vous n'êtes pas tout à fait un poids lourd maintenant, mais plus tout à fait un poids léger non plus. Et un adversaire de taille, là, c'est un défi assez excitant.
Voilà, Jared Anderson, c'était une belle opportunité en plus. Comme Tony Yoka, en fait, je vais partir sur le même état d'esprit. C'est pas ma vraie catégorie. Moi, je suis chez des bridgers en moins de 101 kg. Donc, je vise toujours cette catégorie. Et comme le problème, c'est que la catégorie des bridgers, elle est un peu bloquée. Donc, pour ne pas rester inactif et rien faire, tant qu'on me propose des belles oppositions qui sont encore qui sont raisonnables au niveau du danger et au niveau de ma boxe, j'accepte, quoi. Et je pense que le Jared Anderson, il est jeune, il est moins grand que Tony Yoka, et je crois qu'il est même plus léger que Tony Yoka. Donc voilà, ça reste un chouette défi pour moi.
Oui, d'autant qu'il est invaincu, donc il ne tient qu'à vous de changer cela, Riyad Mehri. Et puis j'espère que votre vie, alors Tony Yoka, voilà, on peut discuter de son niveau, mais c'était assez médiatique et j'imagine qu'on vous a beaucoup félicité, notamment en Côte d'Ivoire, puisque vous êtes belge, mais vous avez des origines ivoiriennes. J'imagine que maintenant, en Côte d'Ivoire, on parle de vous.
Sûrement, sûrement. J'ai pas beaucoup de retours par rapport à ça.
Vous irez vérifier sûrement. Ça sur place peut-être un jour.
Exactement, c'est dans les projets.
C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci beaucoup Riyad Mehri d'avoir pris quelques minutes pour être avec nous dans Mondial Sport et revenir donc sur cet événement boxe hier et la défaite malheureusement un peu expéditive de Francis Ngannou face à Anthony Joshua. On va adoucir un peu les mœurs dans cette émission combat, violente, un peu de musique, musique capverdienne. Je retrouve mes fiches, le titre c'est Alegria, ça doit vouloir dire joie, je pense, même si je ne suis pas lusophone. Les artistes Andrea et Blaise Faya sur RFI dans Mondial Sport.
To make him a woman. Oi papa, oi mamã, já chame só me entregue vida. Por favor, tu diz que me sim, que a pessoa estraga a minha alegria. Alegria, estraga a minha alegria. Alegria. So do we really? She's happy with me, we got fun really. Yeah, like build a family. When she stay by my side, I don't need anything. First of all, my whole life I got this feeling. Me like when we talk together, love together, move together. When we spend time, spend night together. Give us a yes, we need to travel together. So what I need to tell you to make you my woman. So do we, elle t'a dato pa mi. So do we, elle est tout pa mi. Oi papa, oi mamá, so chame. Let me put the ring on it.
Alegria, Andrea et Blesfaya, les Capverdiens sur RFI Mondial Sport, Ring et Octogone KO et Écharpe, boxe et MMA ce samedi. Place seulement au MMA depuis que les arts martiaux mixtes sont autorisés en France. Le rire que vous entendez, c'est celui de Xavier Foucault-Pocam.
Ah, on m'a entendu.
Oui, oui, mais c'est communicatif. Votre rire, professeur X, ancien du MMA dans l'octogone et maintenant plutôt sur les plateaux télé, Canal Plus Afrique, à mon avis. Beaucoup de nos auditeurs vous connaissent. Depuis que les arts martiaux mixtes sont autorisés en France, je parle sous votre contrôle, donc les soirées s'enchaînent, événements PFL. Jeudi dernier, la Professional Fighters League, elle veut concurrencer la surpuissante organisation UFC, qui elle aussi prend parfois ses quartiers à Paris. Alors, il y avait plus de 15 000 fans en délire à Bercy ce jeudi pour une affiche entre le roi du trash talk, Cédric Doumbé, et l'étoile montante, Baki. Le nom complet est trop difficile à prononcer. Tout le monde était prêt à en découdre.
Baïsangour Shamsoudinov.
Bien joué. Tout le monde était prêt à en découdre, sauf que le duel tant attendu, bien, il a fait un peu pchit. Le bruit d'un main event qui se dégonfle, percé par une aiguille, une épine, une écharpe dans le pied de Cédric Doumbé. Résultat, combat arrêté par l'arbitre dans le troisième round, la troisième reprise. Victoire par chaos technique de Baki. Douche froide dans le public, décision contestée, soirée mitigée, Sofiane Amassian.
Merci à tout le monde d'être là, franchement, en public de malade mental. Hey, je me mets à votre place, je suis dégoûté. Je voulais voir un combat de malade mental, pas un combat qui s'arrête comme ça.
Une soirée conclue par des sifflets interminables. Le PFL s'attendait peut-être à une autre fin pour ce combat vu par beaucoup comme le plus important de la jeune histoire des arts martiaux mixtes en France. Tout avait pourtant si bien démarré, deux entrées largement célébrées par les fans. Le gong retentit, les deux hommes se testent, puis Baki prend les devants et déstabilise son adversaire en lutte. Les supporters sont surpris, Doumbé a eu du mal et perd logiquement la première reprise, mais l'ancien champion du monde de kickboxing a de la ressource et revient dans le deuxième round. Plus équilibré que jamais, le match prend fin, subitement, à cause d'une épine dans le pied de Doumbé.
Je suis déçu parce que je voulais premièrement faire plaisir au public, deuxièmement faire plaisir à ma famille qui était là. C'était mon rêve, Bercy. J'étais jaloux de l'UFC quand j'ai vu tous ces Français combattre à l'UFC. Je voulais que ce soit mon tour. Enfin, c'était moi, main event. Et là, que ça se termine comme ça, c'est décevant. Mais ça aurait pu être pire.
Malgré l'incompréhension d'une bonne partie du public, l'intouchable Cédric Doumbé a essuyé ses premières critiques.
Les imprévus font partie du combat. Pour moi, en tout cas dans ma mentalité, c'est le champ de bataille. Parfois, il faut continuer malgré... qu'on se casse quelque chose, qu'on a une épine au pied, qu'on a ci, qu'on a ça.
Baïsangour Shamsoudinov, toujours invaincu en MMA à seulement 22 ans, en profite également pour remettre les pendules à l'heure.
J'étais prêt à ce que le PFL avantage un petit peu plus mon adversaire. Avec par exemple la dame là qui criait Baki t'es mort alors que ça n'avait pas lieu d'être. C'est pas neutre du tout. Mais je m'étais préparé à ça, c'était déjà accepté dans ma tête. Vous m'avez sûrement vu être très à l'aise lors de mon entrée. J'étais tranquille.
Il faut dire que l'organisation a multiplié les maladresses durant la soirée. Une présentatrice qui chauffe le public en criant « Baki t'es mort », des invités qui prenaient des photos dans la cage, ce qui pourrait expliquer la présence d'écharpe sur le sol. Pas sûr que le clan de Baki accepte une revanche, la question ne se pose même pas côté Doumbé.
De un, le public a envie de le voir, je pense que vous aussi, je sais pas, vous avez envie de voir un combat entier. Et de deux, c'est frustrant pour lui comme pour moi. Pour moi, parce que, entre guillemets, bah, c'est une défaite. Pour lui, parce que c'est pas une vraie victoire. Donc il faut un vrai combat, j'espère que ça sera au mois de mai.
Difficile de voir ce combat de rêve une deuxième fois. Le rêve de Baki, c'est bien l'UFC, à moins que le PFL se montre plus convaincant financièrement.
Sofiane Amassian, elle a la langue toujours bien pendue de Cédric Doumbé, malgré l'écharde, donc l'écharde de la, de la Discord.
C'est pas une écharde dans la langue, hein, que je sache.
Xavier Foucault-Pocam, vous l'avez vécu comment cette soirée chaotique, mais alors riche en buzz. Ce qui peut compter dans, on va dire, la conjoncture actuelle.
Et oui, alors moi j'aurais pas dit chaotique. Déjà, effectivement, sur le plan sportif, c'est très très décevant. Beaucoup de gens avaient beaucoup d'attentes vis-à-vis de ce combat, aussi bien les deux athlètes que tous les gens qui les regardaient autour. Malheureusement que ça se finisse comme ça, c'est assez décevant. En même temps, c'est fini sans être fini, en fait, puisque quelque part, le combat a commencé, mais il ne s'est pas terminé, donc c'est pas comme s'il avait complètement eu lieu. Donc oui, on a entendu beaucoup de critiques sur le fait que Cédric aurait été battu par René Char. Non, ce sont des choses qui arrivent. Pour moi, ça reste une histoire de mésentente entre lui et l'arbitre. L'arbitre Marc Godard, que je connais bien, puisqu'il m'a arbitré un grand nombre de fois.
Et qui est très réputé.
Oui, très réputé. Un des meilleurs arbitres du monde, très réputé, très autoritaire et très expérimenté. Il a fait ce qu'il avait à faire. C'est-à-dire que ce n'est pas un athlète de décider d'interrompre le combat pour un fait quel qu'il soit. C'est à l'arbitre de décider. Et quand l'arbitre vous enjoint de combattre, si vous ne le faites pas et que vous lui dites que vous êtes gêné, il considère, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas continuer à combattre. Donc, il arrête le combat. Et le motif, c'est le chaos technique. Donc, c'est arrivé, voilà. Donc, sur le plan sportif, c'est une grosse déception. Maintenant, j'ai envie de vous dire qu'il y a l'autre plan, le plan extra-sportif, marketingo, tout ce qu'on veut, qui, lui, finalement, à mon sens, c'est peut-être le moins mauvais scénario pour les deux parties. Je m'explique. En fait, si Cédric avait battu Baki, ok, l'affaire aurait suivi son cours, ça aurait été normal pour beaucoup de gens qui attendaient ça, et on va dire que la hype, comme on l'appelle, aurait duré quelques jours. Si Baki avait battu Cédric, coup de tonnerre, ça aurait été une catastrophe. Le PFL même aurait perdu beaucoup d'argent, beaucoup de gens auraient été déçus. Pareil, la hype aurait elle-même duré quelques jours, les chiens auraient aboyé et la caravane serait passée. Mais maintenant, ce qui vient de se passer, c'est que finalement, personne n'a gagné, personne n'a perdu encore.
C'est pas un peu injuste de le voir comme ça? Bon, finissez, on va le revoir. Je vous pose la question après.
Je vais aller au bout de mon raisonnement. Donc, finalement, personne n'a gagné, personne n'a perdu, donc tout le monde a encore envie de voir la suite et de voir la fin, surtout de savoir ce qui va se passer. Et là, j'ai envie de vous dire, pour Cédric, comme pour Baki, comme pour le PFL, les enchères vont continuer à grimper. Et les gens, s'ils gèrent bien, en fait, cette communication qui va suivre, à mon avis, ils peuvent faire de cette crise une opportunité.
Donc là, ça voudrait dire qu'on aurait eu un teaser et finalement, le vrai combat est à venir. Donc là, de nouveau, le grand barnum.
C'est exactement. Loin de moi l'idée de dire que c'était prémédité, hein, surtout pas. Mais effectivement, on peut se servir de ce qui est arrivé pour encore plus en tirer parti.
Bon, le pauvre Baki n'a pas vraiment gagné, alors.
Il faut rien tirer à la victoire de Baki. Il a fait son combat, il a fait un très beau combat. Il a respecté, sur le plan sportif, il a respecté effectivement son game plan, en tout cas dans la première partie du combat. C'est vrai qu'ensuite, il s'est progressivement démobilisé, peut-être à court physiquement, parce que c'est compliqué de tenir les trois rounds face à un Cédric très agressif qui avançait tout le temps. Mais en tout cas, il a fait un beau combat et il mérite finalement son verdict.
Eh bien, on va écouter justement une autre réaction qui va un peu dans votre sens. Il faut dire que c'est quelqu'un qui est un peu de la même génération que vous, Xavier Foppa-Pocam. Il s'agit d'un autre pionnier du MMA en France. Lui, il est toujours en piste. Vous avez fait votre retraite.
Il est parti, il est revenu. D'ailleurs, c'est un de mes anciens coéquipiers. Greg, je te salue.
Greg MMA, c'est lui, effectivement. Et il est un peu comme vous, VRP, quelque part, de sa passion dans les médias, sur YouTube, notamment. Greg MMA avec Alexis Matteucci.
J'y étais pas, mais bien entendu, j'ai regardé ça dans un bar avec tout plein de copains. C'était super. Grosse ambiance. Bah, l'arrêt de l'arbitre, c'est le règlement, mais le règlement est débile, hein, sur ce plan-là, je trouve. On aurait bien fait de lui enlever l'écharde et de faire repartir le combattant, mais bon, je pense qu'il y a des petits malins qui ont souvent faim d'avoir une douleur X ou Y pour faire arrêter le combat plus tôt ou pour faire intervenir le médecin. Donc c'est pour ça que je pense qu'ils ont mis cette règle en place. Mais c'est vraiment dommage, parce qu'on partait sur un round partout, et le dernier round était décisif. Donc j'aurais bien voulu avoir une fin un peu plus épique que celle-ci, sans jeu de mots d'ailleurs, avec la pique. Mais bon, ça se finit sur une écharde, écoute, c'est dommage.
Justement, on imagine la frustration de Cédric Doumbé. Comment vous auriez réagi à sa place?
Déjà, à sa place, je connais les règles, donc je sais très bien que l'arbitre, si on se plaint comme ça, il arrête. C'est comme si on avait le doigt déboîté. On met un coup de poing, il y a le doigt qui se déboîte. Il faut le remettre discrètement, ou sinon l'arbitre, il arrête. Hein. Donc là, c'est pareil, hein. Tu as une écharde, tu vas pas te l'enlever tout de suite, mais bon, tu serres les dents et puis tu continues. Je voyais Doumbé légèrement favori, effectivement, mais Baki nous a surpris avec de très belles amenées au sol. Doumbé a pris la mesure des amenées au sol de Baki lors du deuxième round, et il en a contré plusieurs. Il a commencé à installer sa boxe, et c'est pour ça justement que le troisième round était décisif. lequel des deux combattants allait imposer son style. Mais il y a eu un très bon travail des deux combattants. Et surtout, Cédric, ce qu'il a fait, c'est qu'il a été très réactif. Il a bien su s'adapter. Et voilà, ça c'est la marque d'un grand champion qu'il est. Ça reste une bonne publicité. Oui. Parce que ça crée de l'engouement, c'est sûr. Même si le trash talk, c'est pas ma cam. En tout cas, pas de ce style-là. Mais j'espère que les esprits vont s'apaiser, en tout cas. Et que le public apprendra à respecter un peu plus les combattants, que ce soit d'un côté ou de l'autre.
Voilà, les paroles d'un autre sage du MMA. On serre les dents et on continue. Et puis on évite le trash talk. Il y a peut-être une différence de génération, Xavier Foupa-Pocam, mais on en parlera tout à l'heure dans l'approche de certaines choses importantes dans le MMA.
Oui, c'est vrai que c'est clairement en rapport avec notre époque aussi, où on a besoin de sensationnalisme, de spectaculaire. C'est vrai que moi, à mon époque, et à celle que Greg a connue aussi, où nous combattions, on mettait plus en avant, et on continue d'ailleurs, on l'espère, à mettre en avant donc, les valeurs d'esprit martial, le travail, l'abnégation, le respect de son adversaire, l'envie de se dépasser, la résilience aussi, la discipline. Et c'est vrai que moi, j'ai un peu du mal avec toute cette atmosphère et tout cet engouement pour le trash talking qui nous rappelle un peu le catch, qui n'est pas du tout le même sport que le mien. Mais, bon,
mais voilà, qui s'inscrit aussi dans la popularité du MMA, qui est un sport très relayé sur les réseaux sociaux.
C'est ça.
Les combattants sont eux-mêmes parfois. On a reçu ici Morgan Charrière, qui par exemple, très actif sur sa chaîne YouTube. Donc, il y a un vrai travail aussi de promotion.
Non, c'est clair.
Et la popularité de la jeunesse se fait aussi...
Oui, c'est partie de l'époque. Ça fait partie aussi de cette façon, aujourd'hui, de vendre notre sport, de le distribuer, de le faire connaître. Je pense, moi, à mon sens, que notre sport a beaucoup d'autres choses à apporter que cela. Déjà, en lui-même, il est spectaculaire, il est nouveau, il est plein d'émotions fortes. Il se rapproche de ce qu'on peut voir dans la vraie vie, dans une situation de combat, donc très lisible par les gens qui... Et donc, on n'a pas forcément besoin d'en rajouter pour attirer du monde. Mais bon, puisque c'est dans l'air du temps, puisque les gens aiment ça aussi, pourquoi pas? C'est une question de dosage, en fait. Parce qu'après, le problème, c'est que ça peut amener, comme le disait Greg tout à l'heure, certains débordements qui, eux, sont regrettables. Donc, il faut, je pense, savoir jauger jusqu'où on va dans ces domaines.
Et les paroles du sage, du professeur, le professeur X. On va de nouveau faire un saut ou un pont entre les générations. On va parler d'une autre nouvelle star française du MMA qui sera cette nuit, dans quelques heures, dans l'Octogone, Benoît Saint-Denis. Alors là, ça aura lieu à Miami, donc aux États-Unis, face à un Américain, Dustin Poirier. Il est très connu, c'est chez les moins de 70 kilos, une catégorie assez emblématique, si j'ai bien suivi,
c'est ça. Le spécialiste. Dustin Poirier, qu'on appelle le roi sans couronne, parce qu'il a été à plusieurs reprises title contender, donc prétendant au titre sans jamais l'avoir. C'est un combattant qui a énormément d'expérience, qui est très connu, qui est très fort d'ailleurs, qui aujourd'hui n'a plus rien à prouver. Il a affronté les meilleurs, il a affronté deux fois Conor McGregor, il a affronté Khabib Nurmagomedov, Rafael Dos Anjos, enfin il a affronté quasiment tous les plus forts de la KT. Et on a battu beaucoup. Il est très fort, il a énormément de qualité. C'est quelqu'un qui est habitué à faire des grosses guerres, qui est aussi bon debout qu'au sol, qu'en lutte, qui est vraiment pétri de qualité. Et effectivement, ça s'annonce être un très gros défi pour Benoît. Mais Benoît, je pense, a des chances. Aussi infime soit-elle, il a des chances. On en parlera peut-être après.
C'est un rendez-vous avec l'histoire, si je vous suis, pour le nouveau chouchou du public français et des médias. Nos auditeurs ne sont pas en France, mais clairement, on l'a vu partout. Benoît Saint-Denis, ces derniers temps.
Parce qu'effectivement, le public français a besoin de héros, a besoin d'icônes, on a besoin de représentants. Le pays a été longtemps interdit dans notre sport, ce qui fait que ça a beaucoup freiné notre progression, les athlètes français et notre exposition. Ceci dit, aujourd'hui, depuis que ça a changé en 2020, on sent bien qu'il y avait beaucoup d'attentes, qu'il y avait beaucoup de monde qui voulait voir des combattants français les représenter, aussi bien nationalement qu'à l'étranger. Et donc, du coup, beaucoup de gens soutiennent Benoît, qui en plus est quelqu'un, une belle personne, qui représente avec fierté le pays, donc c'est une bonne chose, oui.
Benoît Saint-Denis avec l'amazing Sofiane Amazian, Monsieur MMA, vous l'aurez compris, sur RFI.
On est content, on a un adversaire qui nous permet de nous rapprocher de nos objectifs finaux. On a un combat qui est excitant contre un mec qui est dur, donc voilà, on s'est préparé très dur. On a hâte d'être le jour J et de pouvoir en découdre. Il y a l'excitation du combat. Et il y a la pression de bien faire et de réussir.
Très grossièrement, en un an et demi, vous passez d'espoir à une grande figure du MMA français très très rapidement. Comment vous vivez cela d'ailleurs ?
Très bien, hein. Les enjeux sont toujours plus importants à chaque combat. C'est les victoires qui permettent d'avoir des enjeux de plus en plus importants au fur et à mesure du temps. Donc on prend chaque combat au sérieux et on est content d'avancer étape par étape. C'est, je pense, mon style qui est spectaculaire et efficace. Ben, un style complet et très agressif. Voilà, un style où l'objectif, c'est clairement d'aller chercher le finish et pas d'aller à la décision.
Vous avez su séduire le public aussi par votre personnalité.
Je pense que c'est un mix des deux, surtout. C'est la combinaison de résultats satisfaisants avec des combats enjoués et combiné à l'explosion du MMA à l'international et en France. Le fait de rester fidèle à mon personnage et à moi-même qui font qu'aujourd'hui, il y a une accroche qui est incroyable avec le public. Il y a une certaine communion avec le public français. Ouais.
On va parler un peu de votre adversaire, Benoît, qu'on va quand même présenter rapidement, l'Américain Dustin Poirier, qu'on peut qualifier de légende de l'UFC. Est-ce qu'on peut dire que ce combat face à Poirier, ça va être le combat le plus dur de votre carrière ?
Non, parce que c'est un combat qui est dans ma catégorie de poids. Et je veux prouver au monde que je suis le meilleur dans cette caté. Donc, je n'aurai pas de déficit physique face à Poirier. Maintenant, clairement, dans cette catégorie-là, c'est le combat le plus dur de ma carrière. Et contre un mec très expérimenté, très fort. Donc voilà, il n'y a que la cage qui donne la vérité le jour J. Et en tout cas, on est bien préparé. Et c'est un honneur de croiser le fer avec Dustin.
Ma toute dernière question, Benoît, est-ce que vous pourriez, alors sur RFI, on a des auditeurs qui s'intéressent de plus en plus au MMA, mais qui ne sont pas des grands spécialistes encore de la discipline. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire à ces auditeurs pour regarder votre combat face à Dustin Poirier ?
Bah, écoutez, le combat contre Dustin Poirier, c'est un gros combat dans le monde du MMA français. C'est un combat dans une catégorie de poids qui est très dense, qui est une des plus compétitives au monde. Contre le numéro 3 mondial qui permet de se rapprocher d'une chance de ceinture mondiale et avec deux combattants avec un style engagé qui recherchent le finish, donc un combat qui va être spectaculaire.
Benoît Saint-Denis avec Sofiane Amazian, la réaction à ces déclarations de Xavier Foupa-Pocam dans quelques secondes sur RFI, quelques minutes, on prend le temps d'un peu de musique avant. Fade Rema nous chante Boubalou et ça nous vient de Colombie. Ya no quiero estar sin ti.
Tocándote underwater en la otra mano, nunca hay piriña. me just want you to make you come cool.
Balou, Feydrema, musique.rfi.fr, évidemment, pour écouter des pépites. Nous, on parle MMA. Professeur X,
oui.
Vous avez entendu Benoît de Saint-Denis, oui. Nouvelle coqueluche du MMA français, ce soir face à Dustin Poirier, enfin dans la nuit à Miami. Il parle de son style spectaculaire, Benoît de Saint-Denis, qui en a fait une espèce de météorite. Là, il arrive, il rafle tous les suffrages, tout l'amour du public français là depuis quelques mois. Et là, il affronte un grand nom du MMA. Donc ce soir, ça peut être un tournant dans sa carrière, un peu dans le MMA français.
Oui, ça pourrait être un tournant dans sa carrière, effectivement. Mais c'est ce combat de ce soir, finalement, est assez particulier à pronostiquer. D'ailleurs, les bookmakers ne se sont pas trompés, hein, puisqu'ils ont mis, contre toute attente, Benoît en grand favori. Alors, on sait que les parieurs parient plus souvent avec leur cœur qu'avec leur tête. Donc, pour revenir et revenir un petit peu, être un peu plus factuel, d'un côté, on a donc Dustin Poirier, qui est, sur le plan technique, tactique, sur le plan de l'expérience, sur la variété de la palette technique, et, il faut bien le reconnaître, devant Benoît Saint-Denis, d'accord ? En revanche, sur le plan mental, ça sera un peu différent puisqu'il sort d'une défaite et qu'en fait, il est tellement fort, Dustin Poirier, que finalement, il a rencontré tous les meilleurs de la KT. Il a rencontré deux fois Conor McGregor, le bien connu. Il a rencontré Khabib Nurmagomedov, Rafael dos Anjos. Enfin, il a rencontré tout le monde. Et aujourd'hui, il se retrouvait face, après une défaite, face finalement à quelqu'un qui est 10 places en dessous du palmarès, au classement, pardon, ça pourrait peut-être, d'un point de vue de la motivation, être son point faible. Et de l'autre côté, en face, on a effectivement un Benoît Saint-Denis qui est très en retard, entre guillemets, hein, sur le plan technique, sur le plan de la stratégie, de l'expérience.
Mais qui a mort de faim.
Mais par contre, oui, à chaque fois qu'il combat, lui qu'il affronte le champion du monde ou qu'il affronte sa grand-mère en face, il aura les dents qui rayeront la moquette, c'est sûr. Donc il va venir très affamé, il va tout faire pour gagner.
C'est ce soir, Benoît Saint-Denis, enfin c'est cette nuit hein, plutôt, contre Dustin Poirier. Il faut savoir aussi peu dormir lorsqu'on aime le MMA et qu'on suit le MMA.
Ah, ça se passe souvent aux USA, effectivement, donc oui, il faut se lever tôt.
Allez, on a parlé des actuels, voire des jeunes. On va refaire parler les anciens, vous et pas que, Greg MMA, donc votre ancien coéquipier. On l'a dit tout au long de cette émission, hein, le MMA, c'est le nouveau phénomène en France et pas que, nouveau phénomène sportif. C'était interdit avant de 2020, oui. C'était relégué dans l'obscurité. Vous avez connu cette obscurité, maintenant faites partie de ceux qui apportent la lumière à ceux qui sont complètement sous le feu des projecteurs. Greg MMA a également connu, vous avez à peu près le même âge, cette période difficile, obscure pour le MMA. Aujourd'hui, lui aussi redécouvre la lumière, aide à faire découvrir cette discipline. On l'écoute, Greg MMA, sur l'évolution des arts martiaux mixtes.
Bah maintenant, avant, on était traités comme des chiens ou moins que rien, bah au sens propre. Hein. Et aujourd'hui, non, ça m'étonne pas parce que c'est un sport qui est fantastique, qui est assez accessible malgré les difficultés à comprendre les combats au sol. Mais avec un tout petit peu d'éducation, le grand public peut prendre beaucoup de plaisir à ce type de compétition.
Et justement, pour venir à l'avant, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu comment c'était, les conditions difficiles dans lesquelles vous combattiez ?
Bah déjà, à l'époque, on devait combattre à l'étranger, puisque c'était interdit en France. Donc, on servait de faire valoir aux locaux. Alors, ils nous prévenaient parfois très tard, avant le combat. Ils nous mettaient des grands champions en face. C'est pour ça que même si j'ai, par exemple, un palmarès, enfin, j'ai combien de combats ? Moi, j'en ai 11 maintenant, et... dans la moitié de mes combats, j'ai pris des mecs de l'UFC. Alors, voilà, parfois, on m'a envoyé au casse-pipe. Et c'est compliqué pour les jeunes Français que nous étions. Et aujourd'hui, bon, c'est très bien que les jeunes combattants disposent d'infrastructures et de planification de carrière.
Vous êtes un des premiers Français à avoir battu des champions du UFC, d'ailleurs.
Bah, je suis le premier à avoir
Le premier, pardon.
un gars qui avait gagné à l'UFC, donc c'était Marco Hare, c'était en 2001, je crois.
Est-ce que, selon vous, il y a aussi des points négatifs à ce développement?
Après, pour les autres disciplines de combat, c'est sûr que les adhérents vont se faire rares, donc c'est dommage pour eux, parce que il y a des disciplines comme le karaté ou judo, c'est top, donc c'est dommage qu'ils perdent des adhérents, même si je pense que l'hégémonie du judo perdurera. Voilà, le point négatif, c'est juste, oui, parfois des supporters un petit peu trop fanatiques qu'on insulte facile. Donc, voilà, ça c'est un peu dommage. Mais bon, je pense pas que ce soit lié forcément au MMA, mais au jeu des réseaux dans sa globalité.
Et justement, en parlant des réseaux, vous avez beaucoup œuvré pour la popularisation du MMA via YouTube, via la chaîne Karaté Bushido, qui compte un peu moins d'un million d'abonnés. C'est aussi votre réussite, cette médiatisation?
Bah ouais, bien sûr. Moi j'étais là, ça fait 27 ans que je pratique les arts martiaux, je suis là depuis longtemps. Et sur YouTube, oui, ça fait bien 5, 6, 7 ans que je suis là. Donc je suis pas un opportuniste, j'ai toujours fait ça par passion. Et si maintenant j'ai pu aider à ce que ce sport prenne son plein essor, bah j'en suis ravi. Hein. C'est une fierté que je ne boude pas.
Xavier Foupa Pocam, je pense que vous êtes assez d'accord avec tout ce que dit Greg MMA. Et alors vous, oui, effectivement, vous les avez connus, ces combats loin de la France, parce que c'était interdit en France le MMA, oui. Et dans des ambiances particulières.
Hostile, hostile pour le dire.
C'est vous qui l'avez dit, ouais.
Le mot est lâche, non, c'est vrai, bah, il faut le reconnaître. Hein. Le sport était interdit dans notre pays, donc on devait d'abord, dans l'objectif d'un plan de carrière, faire nos armes ici en France dans des sports autorisés, qui étaient le pancras ou autre. Et une fois que ça avait été, qu'on s'était fait connaître, qu'on avait eu des résultats, qu'on avait engrangé de l'expérience, pouvoir prétendre à faire un premier combat professionnel à l'étranger. Pour moi, le mien, ça a été en Suisse d'ailleurs, puis en Angleterre. Et puis par la suite, bah, à force de bons résultats, revenir, asseoir sa notoriété, sa popularité, c'est prouver ses compétences et puis accéder aux différents titres de champion dans tous les sens. Ouais.
Ouais, donc c'est pas grand chose à voir avec un Bercy acquis à votre cause comme Cédric Doumbé.
Non,
bon, c'est d'autres.
Non, mais c'est quelque chose quelque part, je pense, qui nous a forgé aussi, univers. Qui a forgé notre mental à ma génération, si on peut le dire comme ça, parce qu'en fait, on avait beaucoup d'adversaires au début qui méprisaient un peu les combattants français parce qu'ils prenaient un peu les Français dans l'imaginaire collectif pour des artistes, des poètes, et finalement, ils se rendaient compte que nous venions.
Vous étiez des guerriers aussi.
Voilà, nous venions, nous leur cassions la figure alors que le sport était interdit chez nous, donc ils nous respectaient pour cette détermination qu'on affichait.
On casse la figure, mais dans le respect, évidemment. Pas
toujours.
De violence. Surtout à nos jeunes auditeurs. Merci beaucoup, Xavier Foupa Pocam, professeur X.
Merci
d'être
à vous.
Venu. On espère vous accueillir de nouveau très rapidement dans Mondial Sport. Merci, Claude Battista. Merci à toute l'équipe de Mondial Sport. On se retrouve demain, tout de suite, un nouveau journal international et puis une tranche d'information en langue mandingue si vous nous écoutez en Afrique de l'Ouest. Et puis après, ce sera Pierre-Edouard Deldic pour les autres. Une semaine d'actualité. À demain sur RFI.